Vous écoutez, on lit pour vous.
Peu de protection dans le monde pour les personnes intersexes. Un texte d'Yves Lafontaine paru le 28 avril 2024 dans le magazine Fugue. Bien que les discriminations envers les personnes intersexes ont été reconnues par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU le 4 avril dernier, une grande majorité des États membres de l'ONU n'ont pas encore entrepris de tentatives juridiques suffisantes pour protéger le droit des personnes intersexes à l'intégrité corporelle et à l'autonomie. Néanmoins, une tendance à l'évolution positive se dessine, considère ILGA World. L'organisation ILGA World a publié en décembre dernier la première édition de son Intersex Legal Mapping Report, une enquête mondiale inédite sur les protections juridiques des personnes nées avec des variations des caractéristiques sexuelles. La publication présente une vue d'ensemble de la situation de chacun des 193 États membres des Nations Unies en ce qui concerne la protection des droits humains des personnes intersexes et des profils des 34 pays où des développements juridiques ont eu lieu, ainsi qu'une analyse de la manière dont les questions intersexes ont été traitées dans le droit international des droits humains. En outre, il présente également des entretiens avec des militants intersexes, offrant des perspectives uniques sur leur travail de défense des droits. Les personnes intersexes naissent avec des variations des caractéristiques sexuelles, comme les organes génitaux, les organes reproducteurs, les modèles hormonaux et chromosomiques, qui présente une diversité allant au-delà des définitions stéréotypées des corps masculins ou féminins. Jusqu'à 1,7% de la population mondiale est née avec de telles caractéristiques. Cependant, parce que leurs corps sont considérés comme différents, les enfants et les adultes intersexes sont souvent stigmatisés, mutilés, soumis à des pratiques préjudiciables, y compris dans le cadre médical, et victimes de discrimination. Citation. Jusqu'au mois de juillet 2023, seuls 6 États membres de l'ONU avaient adopté des lois interdisant les traitements médicaux inutiles, les chirurgies et autres interventions modifiant les caractéristiques sexuelles des personnes intersexes mineures sans leur consentement libre, préalable et pleinement éclairé. Fin de citation, a déclaré Crystal Hendricks, présidente du comité intersexe d'ILGA World. Citation. Cette carence frappante de protection juridique est toujours une réalité malgré les appels unanimes, systématiques et urgents de la société civile intersexe et des organismes internationaux de droits humains. Pourtant, les tendances positives actuelles nous donnent des raisons d'espérer. Fin de citation. Le Intersex Legal Mapping Report d'ILGA World explique comment les 15 dernières années ont vu une augmentation rapide des développements juridiques visant à améliorer la situation des personnes intersexes. En juillet 2023, 7 États membres de l'ONU ont introduit une législation nationale interdisant la discrimination fondée sur les caractéristiques sexuelles. 5 États ont adopté des dispositions juridiques sur la responsabilité pour les infractions commises sur les mêmes bases. Et 7 ont introduit d'autres normes juridiques visant à améliorer la jouissance égale des droits humains par les personnes intersexes. En outre, il existe un nombre croissant de développements juridiques nationaux et infranationaux ayant pour but de répondre aux besoins de la communauté intersexe. Citation. Le droit international des droits humains joue également son rôle. Fin de citation, a ajouté Ilia Savlev, co-auteur du Intersex Legal Mapping Report. Citation. Depuis 2009, les réponses des organisations intergouvernementales sont passées de suggestions indécises à des appels urgents et confiants pour interdire légalement les interventions médicales non consensuelles sur les personnes intersexes mineures et garantir l'obligation de rendre des comptes. Fin de citation. Lors du dernier Conseil des droits de l'homme de l'ONU, en octobre 2023, la Finlande, le Chili, l'Afrique du Sud et l'Australie ont par exemple mené un groupe de 56 États de toutes les régions du monde, incluant le Canada, dans un appel retentissant à, citation, « intensifier les efforts pour lutter contre la violence, les pratiques préjudiciables et la discrimination sur la base des caractéristiques sexuelles. Fin de citation. À la même occasion, des organisations de la société civile ont demandé une résolution des Nations unies qui pourrait conduire à un rapport officiel des Nations unies sur la question. Ce serait une première absolue et sensibiliserait les États aux questions intersexes d'une manière qu'ils ne pourraient plus les ignorer. La société civile a en effet joué un rôle fondamental dans l'avancée des droits humains des personnes intersexes. Citation. Toutes les avancées obtenues au cours de ces années témoignent de leur travail acharné, fin de citation, ont déclaré Luz Helena Aranda et Twisina Imania Brown, co-secrétaires généraux d'ILGA World. Citation. Les militants dénoncent depuis longtemps les violations du droit des personnes intersexes à l'intégrité corporelle, à l'autonomie et à l'autodétermination. Mais nous savons que les personnes intersexes ne sont pas les seules à être confrontées à ces questions. À des degrés divers, ces questions sont également extrêmement pertinentes lorsqu'il s'agit d'égalité de genre et de sexualité, mais aussi de handicap, de santé et de droits sexuels et reproductifs, ou encore de travail du sexe. À une époque où le contrôle des corps est devenu un élément essentiel de l'agenda anti-droit, la solidarité entre les mouvements n'a jamais été aussi importante. Nous espérons que des outils tels que le Intersex Legal Mapping Report catalyseront des progrès et des changements continus, pas seulement pour la communauté intersexe, mais pour nous tous. Fin de citation. Ce rapport rappelle, entre autres, que l'article 268 du Code criminel canadien interdit les voies de fait graves et que le fait de blesser, de mutiler ou de retirer les organes sexuels d'une victime est explicitement inclus dans la définition. Cependant, il existe une exemption à l'article 268 pour les médecins qui effectuent des interventions chirurgicales destinées à créer une « apparence sexuelle normale ». En juin 2021, des militants d'Égal Canada ont déposé une requête auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario pour contester la constitutionnalité des exemptions du Code criminel, mais aucune décision n'a encore été prise. Quelques chiffres à retenir. Les données énumérées dans le rapport se réfèrent à la situation jusqu'en juillet 2023. Six États membres des Nations unies disposent de lois interdisant les interventions médicales inutiles visant à modifier les caractéristiques sexuelles des mineurs intersexes sans leur consentement libre préalable et pleinement éclairé, Allemagne, Grèce, Islande, Malte, Portugal et Espagne. Seuls deux États membres des Nations unies, la Grèce et Malte, ont introduit des sanctions spécifiques en cas de violation de ces interdictions. 181, 94% États membres des Nations unies n'ont pas encore pris de mesures juridiques suffisantes pour protéger le droit des personnes intersexes à l'intégrité corporelle et à l'autonomie. Sept États membres des Nations unies ont introduit une législation nationale interdisant la discrimination fondée sur les caractéristiques sexuelles. Albanie, Bosnie-Herzégovine, Danemark, Malte, Portugal, Espagne et Serbie. Huit États membres des Nations unies ont adopté une législation visant à protéger les personnes intersexes contre la discrimination fondée sur d'autres motifs. Australie, Belgique, Finlande, Inde, Monténégro, Pays-Bas et Afrique du Sud. Cinq États membres de l'ONU ont adopté des dispositions légales sur la responsabilité des infractions commises sur la base des caractéristiques sexuelles. Le Danemark, la Grèce, l'Islande, l'Espagne et Malte. Sept États membres des Nations unies ont introduit d'autres normes juridiques visant à améliorer l'égalité de jouissance des droits humains par les personnes intersexes. Andorre, le Chili, le Costa Rica, la Grèce, l'Islande, le Kenya et les États-Unis. ILGA World a identifié des lois et réglementations infranationales comprenant des dispositions relatives aux droits des personnes intersexes à l'intégrité corporelle et à l'égalité de jouissance de leurs droits humains en Australie, en Inde, au Mexique, aux Philippines, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. C'était « Peu de protection dans le monde pour les personnes intersexes », un texte d'Yves Lafontaine, paru le 28 avril 2024 dans le magazine Fugue.
Adapté pour mieux séduire, un texte de Mario Girard, paru le 13 avril 2024 dans La Presse. Que se passe-t-il sur nos scènes en ce moment? Jamais on n'a vu autant de romans ou d'œuvres cinématographiques adaptées au théâtre. Après Manuel de la vie sauvage, roman de Jean-Philippe Barry-Guérard, voilà que son auteur adapte Royal chez Duceppe. Pendant ce temps, Un cœur habité de mille voix, de Marie-Claire Blais, est présenté à l'Espace Go après avoir été revu par Kevin Lambert. Je peux aussi vous parler de « N'essuie jamais de larmes sans gants » de Jonas Gardell, que le Trident et Duceppe ont récemment offert. « D'orgueil et préjugés » de Jane Austen, qui, après Québec, ira au théâtre Denise Pelletier la saison prochaine. Notons que ces deux mêmes théâtres se sont emparés l'an dernier des Ploufs de Roger Lemelin au moment même où la Bordée adaptait « Là où je me terre » de Caroline Dawson. Les lancements de saison 2024-2025 commencent à peine et on peut déjà dire que cette tendance à l'adaptation sera très forte. Le TNM va porter à la scène « La femme qui fuit », roman d'Anaïs Barbeau-Lavalette. La trajectoire des confettis de Marie-Ève Thuot et Paul à la maison du bédéiste Michel Rabagliati seront remaniés pour le Trident. Quant au roman Ma vie rouge Kubrick, œuvre de Simon Roy, il sera offert au théâtre Denise Pelletier. Toujours à ce même théâtre, le duo Félix-Antoine Boutin et Sophie Cadieux, qui a déjà adapté Fanny et Alexandre, film de Bergman, va maintenant s'attaquer à Peau d'âne, d'après le conte de Charles Perrault. Étant dans le secret des dieux, je peux vous dire qu'on annoncera au cours des prochains jours l'adaptation théâtrale d'un roman québécois qui a obtenu un énorme succès au cours des dernières années. Les scénarios de films ne sont pas en reste. Deux femmes en or, le déclin de l'Empire américain et le roi d'Anse ont tous fait l'objet d'adaptations sur les planches. Et comme si ce n'était pas assez, on puise aussi du côté de la télévision. Saint-Forien et Moi et l'autre, qui sera présenté au Théâtre du Vieux-Terrebonne à l'été 2024, ont inspiré des producteurs privés. Comment faut-il interpréter ce phénomène? Sommes-nous en panne d'inspiration à ce point? D'abord, il faut préciser que ce mouvement n'est pas nouveau. Le TNM a déjà donné dans le genre avec l'adaptation d'œuvres littéraires. L'Odyssée, Don Quichotte, La Vallée des Avalées, L'Hiver de Force. Mais des professionnels du milieu théâtral avec lesquels je me suis entretenu ces derniers jours sont tous d'accord pour dire que ce courant est très fort en ce moment. Les théâtres font face à de nombreux défis. Ils doivent trouver toutes sortes de moyens pour garder la tête hors de l'eau. Les adaptations d'œuvres ayant une résonance forte auprès du public sont une avenue. Parmi les gens qui iront voir Royal ou La femme qui fuit, il y a ceux qui connaissent déjà l'œuvre pour l'avoir lue. Mais il y a aussi ceux qui sont attirés par le buzz. On me disait que les billets pour l'adaptation théâtrale du déclin de l'Empire américain étaient tous vendus avant le soir de première, à l'Espace Go en 2017. Quant à Royal, sa publicité clame que 15 000 billets ont déjà trouvé preneur. Est-ce que la transposition d'un roman à la scène donne automatiquement une bonne pièce? La réponse est évidemment non. Le talent de celui ou celle qui remaniera l'œuvre et le travail de l'équipe de production compte énormément dans la réussite de l'entreprise. Mais quand le but est atteint, cela peut procurer quelque chose d'extraordinaire. Cette démarche permet parfois de mettre en valeur des dimensions qui sont en mineur dans le roman, m'a dit Paul Lefebvre, conseiller dramaturgique et artistique au Centre des auteurs dramatiques, CEAD. Ça permet de déployer certains éléments du roman. Ce dernier ne croit pas que cette avalanche d'adaptation, qui s'inscrit dans un vaste mouvement d'hybridation touchant toutes les sphères de la culture, nuise à la création d'œuvres originales ou à l'exploitation du répertoire existant. Cela dit, une œuvre adaptée d'un roman ou d'un scénario de film prend quand même la place d'une véritable pièce de théâtre dans une programmation. Les dramaturges devraient-ils s'en inquiéter? Un roman n'est pas fait pour la scène, m'a dit un auteur bien en vue dans le monde du théâtre qui tient à défendre son territoire. Cet exercice est risqué. Je crois que ce mouvement montre à quel point la création d'une œuvre originale est confrontante pour un metteur en scène. Son point de vue est intéressant, car une directrice de théâtre me confiait que ses propositions d'adaptation viennent souvent des metteurs en scène eux-mêmes, et aussi d'auteurs ou de comédiens qui ont envie de plonger au cœur d'une œuvre ou d'un personnage littéraire. Je remarque que ce phénomène rejoint une autre tendance qui consiste à vouloir complètement adapter les grands classiques. Pour cela, on coupe, on réduit, on charcute, on réaménage, on réinterprète. Encore là, le résultat peut être réussi ou carrément raté. Il y a deux façons de voir ces expériences de métissage et d'adaptation au goût du jour. Les puristes verront là une opération bassement commerciale destinée à appâter des spectateurs. Les autres applaudiront ces initiatives qui visent à nous offrir une forme d'art hybride et nouvelle. On a tellement demandé au théâtre de se réinventer et de trouver des moyens d'attirer le public. Et on a tellement répété, j'en fais partie, que les directeurs de théâtre ne se souciaient pas des intérêts du spectateur qu'il est difficile aujourd'hui de leur reprocher d'essayer de nouvelles choses pour nous faire quitter notre divan. C'était « Adapter pour mieux séduire », un texte de Mario Girard paru le 13 avril 2024 dans La Presse.
Accoucher en français au territoire du Nord-Ouest. Un texte de Denis Laure, paru le 6 juin 2024 dans « L'Aquilon des territoires du Nord-Ouest ». Au territoire du Nord-Ouest, c'est à Hay River et Fort Smith qu'on trouve des sages-femmes et certaines d'entre elles parlent français. Installée à Hay River, la sage-femme Émilie Lemonde Hens est bilingue. Sa langue maternelle est le français, même si elle concède ne pas avoir beaucoup d'occasion de la pratiquer. Dans les dernières années, un seul des accouchements qu'elle a assisté s'est déroulé en français. C'était en 2023. Une année peu propice pour mettre au monde un enfant dans cette ville deux fois évacuée. Exception faite de cette année de feu, il se pratique entre 8 et 15 accouchements avec sage-femme par année à Hay River, selon Mme Lemonde Hens. Il n'y a pas de base de données pour les accouchements, observe-t-elle. La seule, c'est ma mémoire. C'est très important de pouvoir s'exprimer dans sa langue dans un cadre très intense, ajoute la sage-femme en référant à l'accouchement. C'est difficile de s'exprimer, alors si tu peux le faire dans la langue où tu es le plus confortable, tu vas avoir une meilleure expérience. Suivi prénatal. À Hay River, en l'absence de docteurs présents sur une base permanente, ce sont les sages-femmes qui font le suivi prénatal. Les accouchements se font à l'hôpital, note Émilie Lemonde Hens, mais c'est semblable à une maison de naissance au Québec. C'est un petit hôpital. Celles qui accouchent à Hay River et Fort Smith doivent être à bas risque de complications sérieuses. Évidemment, on peut s'occuper des urgences. À Fort Smith, Véronique Bazinet est une sage-femme qui offre des services en français et en anglais depuis 2015. Il y a en tout deux sages-femmes à Hay River comme à Fort Smith, mais d'autres sages-femmes peuvent aussi intervenir sur une base ponctuelle. Théoriquement, une femme d'une autre région peut aller y utiliser leurs services. Des coupures à Yellowknife. Dans le budget 2024-2025, qui reste à être entériné par l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest, on prévoit mettre fin à la mise en place du programme de sage-femme à Yellowknife, ce qui générerait une économie de 900 000 $. Selon un porte-parole de l'Administration des services de santé et des services sociaux des territoires du Nord-Ouest, ASSS-TNO, il y aurait eu une sage-femme à Yellowknife entre 2011 et 2015. Ensuite, l'autorité a reçu du financement du ministère de la Santé et des Services sociaux pour engager du personnel et étendre le programme du côté des collectivités, entre autres. Du personnel a été embauché pour faire de la formation, établir les interactions avec le reste du système de santé, mais n'a pas pratiqué comme tel, ce qui devait arriver ultérieurement. Il y a toujours eu des défis avec le recrutement dans cette plus récente expansion, ajoute le porte-parole de l'ASSS-TNO, assurant que les services de sage-femme ne sont pas en danger dans le Salt Slave. Une équation erronée. Leslie Paulette est sage-femme et porte-parole de l'Association des sages-femmes des territoires du Nord-Ouest. La ministre pense que plus on coupe des positions à Yellowknife, plus il en reste pour les collectivités, rapporte-t-elle, mais c'est faux. Il y a des sages-femmes des collectivités qui ne veulent pas aller en ville et des sages-femmes qui veulent travailler à Yellowknife, qui ne se sentiront pas confortables à travailler dans une petite collectivité. Ce n'est pas une compétition. Madame Paulette rappelle de surcroît que le développement du programme de sage-femme à Yellowknife a toujours eu comme objectif de desservir la capitale, mais aussi les autres collectivités aux alentours. Attractivité. Selon Mme Paulette, une pionnière de l'implantation de la maïeutique au TNO, les sages-femmes sont une denrée rare et ont actuellement le choix de s'installer où elles veulent au Canada. Alors, c'est un problème pour le Nord, évidemment. Elles sont difficiles à recruter. Nous devons être vraiment créatifs et démontrer ce qu'il y a de spécial dans le Nord. Il y en a qui sont venus ici et ont dit que c'est la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée. Pour Mme Paulette, plus il y a de sages-femmes au TNO, plus le territoire devient attirant pour elles, le nombre créant la perception d'une collectivité. C'est intéressant, dit-elle, et nous nous supportons l'une l'autre. Débat. Pour la porte-parole de l'Association des sages-femmes des TNO, l'éventuelle coupure du programme de sages-femmes de Yellowknife fait l'objet de beaucoup de débats en privé et en public. Il est peut-être trop tôt pour dire ce qui va se passer, commente Leslie Paulette. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en tant qu'association, nous faisons de notre mieux pour transmettre l'information aux preneurs de décision, afin d'essayer de les éduquer, parce qu'il y a des malentendus à propos du programme. Il y a eu des barrières pour empêcher de le mettre en place, mais c'est possible de les franchir. Et c'est important, parce que nous avons eu des sages-femmes qui ont occupé brièvement ces positions, mais elles sont parties au bout d'un an ou deux. Nous devons nous réengager et concrétiser ce programme, montrer à la collectivité de sages-femmes du Canada que cette fois nous sommes sérieux. Madame Paulette milite également en faveur de la création à Yellowknife d'une formation en maïeutique spécifique pour le Nord. C'était « Accoucher en français au territoire du Nord-Ouest », un texte de Denis Laure paru le 6 juin 2024 dans l'Aquilon des territoires du Nord-Ouest.
Des artistes dans tous les CA. Un texte de Renaud Lessard-Sainte-Marie, paru le 2 avril 2024 dans Le Devoir. En réponse à la série d'articles rédigés par Stéphane Baillargeon concernant le manque de représentation d'artistes dans les conseils d'administration des sociétés d'État à vocation culturelle, j'aimerais faire part d'une réflexion à vos lecteurs ainsi qu'à mes collègues travaillant en création. les avocats, les gestionnaires, les comptables et les consultants s'approprient l'écrasante majorité des places de CA au Québec. Dans un esprit de réciprocité, j'aimerais voir les artistes siéger en grand nombre au CA des sociétés d'État à vocation culturelle, mais aussi être membre de conseils d'administration dans tous les domaines. De toute évidence, la gouvernance de plusieurs sociétés d'État peine dramatiquement à proposer des pistes de solutions pour répondre aux problèmes d'aujourd'hui et de demain. Crise du logement, pénurie de main-d'œuvre, effritement du filet social, crise climatique, etc. Les artistes et les créateurs ont comme vocation de développer des visions et des idées originales. N'est-ce pas justement le type d'aptitude qui pourrait enrichir la pensée et nourrir le débat chez les décideurs? J'aimerais voir Dany Laferrière au CA de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Pierre Lapointe au CA de la Société de télédiffusion du Québec, Alexandra Streliski au CA de la Société de la Place des Arts de Montréal, Caroline Monet au CA d'Hydro-Québec et Anaïs Barbeau-Lavalette au CA de la Société immobilière Québec. Est-ce que c'est plus fou que de voir un banquier à la tête du CA de la Société de développement des entreprises culturelles, Stéphane Achard à la SODEC, ou encore une hôtelière à la présidence du CA du Musée national des beaux-arts du Québec, Christiane Germain au MNBAQ? Pour paraphraser Alain Denault, la seule manière de gagner la game, c'est de jouer à notre propre jeu. En 1975, Warhol disait « L'art des affaires, business art, est l'étape qui vient après l'art. J'ai commencé comme artiste commercial et je souhaite finir ma carrière comme artiste des affaires. Être bon en affaires est la forme d'art la plus fascinante. Travailler est un art et les bonnes affaires sont le meilleur art. Au plaisir de croiser des gens avec une plus grande diversité de parcours professionnels et personnels dans les hautes sphères de décision. » C'était « Des artistes dans tous les CA », un texte de Renaud Lessard-Sainte-Marie, paru le 2 avril 2024 dans Le Devoir.